Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Pauline Rapilly-Fergnaud, candidate de la nouvelle Union populaire écologique et sociale à Boulogne-Billancourt, dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Pauline Rapilly-Fergnaud, vous avez 26 ans, vous êtes issue d'Europe Écologie Les Verts et vous êtes élue d'opposition à Boulogne, en banlieue parisienne. Avant de parler de votre projet à l'occasion de ces législatives, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours à la fois personnel et politique ?
Oula, ça va être long si on doit faire une émission que de 15 minutes, mais mon parcours, ben, je suis née et j'ai grandi à Boulogne-Billancourt. Ensuite, j'étais au lycée La Fontaine dans le 16e où j'ai fait du vietnamien. J'en ai pas retenu grand-chose, mais c'est important pour moi puisque c'est le groupe d'amis que je me suis constitué en dehors de la politique et qui me soutient et qui me permet d'avoir... un pied en dehors de la politique encore aujourd'hui. Et ensuite, j'étais à Paris 8, à Saint-Denis, en double licence, histoire et sciences politiques, puis master de sciences politiques. Et après, je me suis retrouvée à être candidate pour les municipales à Boulogne-Billancourt. C'était déjà un beau pari parce qu'on n'était que 4 dans le groupe local quand je suis arrivée. Il a fallu trouver 55 personnes qui acceptaient d'être candidats et candidates écolo pour se présenter. Bon, ça a marché, donc je suis élue d'opposition maintenant à Boulogne. Et ensuite, je me suis pas mal investie l'année dernière pour la campagne de Julien Bayou, qui était candidat pour les régionales, pour remplacer Valérie Pécresse. Bon, ça n'a pas marché, mais c'était une belle campagne. Et aujourd'hui, donc, je suis candidate pour les législatives à Boulogne.
Et on peut préciser à nos auditeurs que vous avez été dans l'actualité il y a quelques semaines, lorsque les services d'ordre du Rassemblement National vous ont expulsé violemment d'une conférence de presse de Marine Le Pen.
Oui, tout à fait. Alors, le but au début, c'était nous de rappeler que, en fait, Marine Le Pen, c'était une conférence de presse pour sa diplomatie. Et nous, on voulait pas qu'on puisse ignorer lors de cette conférence de presse que Marine Le Pen, c'était avant tout une alliée, une soutien de Vladimir Poutine depuis longtemps. Et donc, on voulait ramener cette image dans la conférence de presse. Et on a ramené physiquement l'image. C'était une photo de Marine Le Pen et Vladimir Poutine dans un cœur géant. Bon, l'image qui a plus circulé, c'est en fait moi qui me fais plaquer au sol, parce que j'ai à peine le temps de lever les bras en l'air que immédiatement je me retrouve plaqué au sol et traîné jusque en dehors de la conférence de presse. Et c'est vrai qu'après, ça a pas mal circulé.
Et pour la petite histoire, vous avez aussi un peu embêté le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à l'occasion de ses vacances à Ibiza.
Oui, tout à fait. Mais l'objectif, c'était pas tant d'embêter Jean-Michel Blanquer. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé danser en maillot de bain avec un sosie de Jean-Michel Blanquer devant le ministère de l'Éducation. L'idée, c'était de dire, mais en fait, là, c'est trop grave. On a un ministre qui se moque littéralement des enseignants depuis 5 ans. Et ben, en fait, on avait envie que pendant quelques minutes, les enseignants et puis l'ensemble des Français puissent se moquer un peu aussi de lui, parce qu'en fait, ça fait 5 ans qu'ils se sentent pas écoutés et puis parfois un peu sans pouvoir face à ce ministre qui les écrase. Et en fait, le moment où on rigole de lui, c'est quelques instants où le pouvoir se renverse et où ça fait du bien un peu et ça redonne envie de se battre.
Et c'est une autre façon de faire de la politique. Alors, Pauline Rapilly-Fergnaud, c'est la première fois que la gauche arrive unie au premier tour des législatives. Cette alliance est vraiment historique, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon ce week-end à Aubervilliers.
Oui, j'ai l'impression que c'est vraiment historique, mais pour l'instant, on va dire, comme dit Julien Bayou, que c'est exceptionnel et que c'est à nous d'en faire quelque chose d'historique. Ce qui serait historique, c'est qu'on arrive à imposer une cohabitation, imposer une majorité écologiste et de gauche à l'Assemblée, et ça, ce serait historique.
Alors, Pauline Rapilly-Fergnaud, le député joue un rôle à la fois local et national. On va parler de vos propositions sur le plan national. Mais quelle sera votre action pour les habitants de Boulogne-Billancourt si vous êtes élu au premier tour le 12 juin ou bien au second tour le 19 juin?
Alors, comme vous l'avez dit, c'est d'abord une élection nationale, mais une différence majeure qu'il y aura entre moi et le député sortant, c'est qu'en fait, moi, je serai encore là une fois élu. Je vais pas faire campagne et puis après disparaître pendant 5 ans, comme ça a été le cas pour Thierry Solaire ces 2 derniers mandats. Sur mon tract et sur mon affiche, il y a mon numéro de téléphone, un spécialement pour la campagne, hein, c'est pas mon numéro perso, mais une fois élu à l'Assemblée nationale, je n'aurai pas changé de numéro de téléphone et de contact pour me joindre, donc je serai encore à l'écoute des Boulonnais et Boulonnaises. On va pas se mentir, sur Boulogne, aujourd'hui, les chances de gagner, elles sont quasiment nulles, mais il en existe toujours une. En fait, il existe un chemin encore plus petit que celui que voyait Mélenchon pour être président de la République, mais il existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mélenchon, il a fait 15% au premier tour des municipales. Au premier tour des présidentielles à Boulogne, Yannick Jadot, il fait un peu plus de 5%. L'enjeu pour moi, c'est d'arriver à accumuler ces deux électorats qui ne vont pas ensemble à Boulogne. C'est en fait de solidifier ces 15% et un peu plus de la gauche à Boulogne, sans perdre les 5% qui ont voté Yannick Jadot et qui sont pas forcément tout de suite, pour qui c'est pas forcément l'évidence, d'aller voter pour une coalition nouvelle, Union Populaire, etc.
Alors, Pauline Rapilly-Ferniaud, Boulogne est une ancienne ville ouvrière, même si aujourd'hui c'est une ville de droite, une ville aisée. C'est l'ancien siège du Renault qui était à Boulogne-Billancourt. C'est la raison pour laquelle vous faites campagne désormais avec une 4L, la mythique voiture de nos parents.
Exactement. En fait, moi, quand je suis née, les usines Renault avaient déjà fermé. La dernière voiture était sortie 2-3 ans avant ma naissance. Et en fait, j'ai grandi avec ces usines fermées dont on savait, on se doutait qu'elles allaient être rasées. Mais on imaginait quand même qu'il allait rester quelque chose de cette mémoire ouvrière. Et quelque chose qui, moi, me touche, c'est en fait d'avoir redécouvert il y a quelques années, en faisant une licence d'histoire, l'histoire forte, l'histoire ouvrière forte de Billancourt et dans laquelle, en fait, on peut grandir à Boulogne et Billancourt sans ne rien savoir et ne rien connaître de cette histoire qui pourtant nous entoure et qui est fort dans l'identité de Boulogne. Et j'avais envie de profiter de ces législatives pour en parler. Et donc, hier, on est allé en train puis à vélo à 2 heures de Paris chercher une 4L dont le moteur a été construit ici. Enfin, ici, on n'est pas à Boulogne, mais a été construit à Boulogne-Billancourt il y a 20, 30 ans.
Et donc l'idée, c'est d'attirer un peu le regard des habitants de Boulogne-Billancourt avec cette 4L.
Bah, comme tout un tas de nos actions, l'idée, voilà, c'est à chaque fois de passer des messages. Et en réalité, il y a beaucoup de gens qui me voient comme bon bah voilà, je suis une jeune femme, je suis féministe, donc pour beaucoup, ça va être facile de se reconnaître en moi et en ma candidature. Mais c'est aussi de dire à d'autres personnes que permettre à d'autres personnes de se reconnaître aussi dans ce qu'on porte. En fait, il y a des personnes qui me disent ah mais la 4L, c'est la voiture de mon enfance et que ça va toucher. Il y a des personnes pour d'autres sujets qui vont dire ah ben en fait enfin j'ai rencontré un Boulonnais qui voulait voter Macron par exemple hier et puis on parle quelques temps et il me dit mais en fait moi je rêve d'une ville sans voiture et en fait l'idée c'est avec plein de petits sujets d'aller déclencher des conversations avec les gens pour qui le vote écologiste ou le vote pour la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale n'est pas une évidence mais qui en parlant avec la personne qui voudrait être leur futur député se disent ben en fait pourquoi pas elle, je suis peut-être pas d'accord sur tout mais en fait je crois que c'est elle la meilleure députée que je puisse avoir là aujourd'hui face à Thierry Solaire, par exemple.
L'écologie, ça intéresse les habitants de Boulogne.
Oui. On peut dire que même ceux qui ne votent pas écologistes, en général, ils ont quelque chose à dire parce que sur le marché, on a énormément de discussions sur des visions très différentes de l'écologie et notamment, par exemple, sur le nucléaire, sur les déplacements à vélo. Quelque chose qui touche beaucoup aussi, c'est la qualité de l'alimentation des enfants parce qu'il y a beaucoup de familles à Boulogne. Et donc l'écologie, c'est un sujet super large qui touche l'ensemble de la vie des habitants habitantes de Boulogne et pas que. Donc oui, c'est un sujet qui intéresse.
Pauline Rapilly-Ferniaud, si vous êtes élue députée, sur quel sujet travaillerez-vous en priorité? Vous avez parlé notamment du féminisme.
Alors oui, je voulais, mais d'ailleurs je vais inviter un certain nombre de journalistes à venir sur un coin de Boulogne, là où j'ai subi ma première agression sexuelle. J'avais 12 ans et j'étais à vélo avec mon père, ma belle-mère et ma sœur et un homme passe derrière nous à vélo et me touche les fesses. Et en fait l'idée c'est d'expliquer aux journalistes qui viendront, cet angle de rue il représente rien pour personne. Mais moi depuis 26 ans, enfin en fait non depuis 15 ans, quand je passe à côté, ça me rappelle ce moment-là. Aujourd'hui, le gouvernement, il n'a rien fait pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et quand il a essayé d'en parler, c'était pire parce qu'il l'a fait pour stigmatiser certaines catégories de la population, certains quartiers, avec les quartiers dits sans relous de Marlène Schiappa, en supposant qu'il y avait des quartiers où il y avait des relous, et en disant que c'était plutôt là où, en fait, il y avait des personnes issues de l'immigration, etc. Et moi, l'idée, c'est de dire, mais en fait, c'est partout, tout le temps, et à Boulogne-Billancourt aussi, et même dans les quartiers les plus aisés de Boulogne-Billancourt, quand on grandit, quand on est une jeune fille, il y a toujours un moment dans notre vie, et ça concerne 100% des femmes, où qu'elles habitent en France, il y a un moment où on nous fait comprendre que ça y est, on n'est plus une enfant, et qu'on est un corps qui peut susciter l'intérêt des hommes dans l'espace public.
Et on est d'accord avec votre constat, mais que peut faire un gouvernement? Parce que finalement, ces agressions sexuelles, est-ce qu'on peut mettre un policier à tous les coins de rue? Il faut éduquer les jeunes, il faut faire des campagnes de sensibilisation. Vous, qu'est-ce que vous feriez en
alors,
tant que député?
Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Et alors, plutôt que de mettre un policier à chaque coin de rue, je pense que la formation des policiers est clé pour accueillir les plaintes. Aujourd'hui, quand on va porter plainte, parfois on nous refuse notre plainte parce qu'on considère que oh, c'est pas si grave que ça. Et en fait, ça devient une seconde violence. d'aller porter plainte ou d'aller dénoncer ces actes-là. Donc déjà sur la formation, c'est quelque chose de clé qui peut être mis en place. Ensuite, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, l'éducation au consentement, c'est quelque chose qui peut aider. Mais en fait, aussi les hommes, c'est pas quelque chose contre les hommes. Je pense que quand les lignes sont claires pour tout le monde, eh ben c'est plus facile aussi pour les hommes.
Le mouvement MeToo a été salutaire pour vous ?
Bien sûr, ben je pense qu'à chaque fois que les femmes se sentent plus seules en fait pour parler, eh ben il y en a plus qui parlent et ça permet à des sujets d'être mis sur la table. Mais on peut regretter qu'en fait la parole se soit libérée, mais alors l'écoute rien du tout quoi. Et puis les moyens encore moins. Aujourd'hui on a le mouvement MeToo et un président de la République qui nous dit non mais Gérald Darmanin, on a une discussion entre hommes et il y a aucun problème. Et je pense que ça, ça joue un rôle dans le fait que ça n'avance pas.
Il y a aussi la question de la justice. De nombreuses femmes portent plainte pour viol, ce qui est très difficile de porter plainte. Et puis, souvent, ça aboutit à des non-lieux.
Oui, tout à fait. Et puis, en fait, je crois que c'est 1% seulement des plaintes pour viol qui aboutissent à une condamnation. Aujourd'hui, en réalité, porter plainte, c'est... vraiment, moi, aujourd'hui, j'ai une amie qui a dû à un moment porter plainte pour viol, c'est allé jusqu'au procès, etc. Quand je vois comment ça se déroule, si je devais conseiller, enfin, politiquement, j'inciterais les personnes à aller porter plainte. Mais en réalité, si je devais conseiller à des personnes, je sais pas si je leur dirais porte plainte, parce que l'urgence, c'est d'abord, enfin, la priorité pour les personnes, c'est d'abord d'être protégées, de pouvoir se reconstruire, de pouvoir continuer à vivre, et que ça devienne pas toxique au long terme. Et je sais pas si porter plainte, ça aide beaucoup à dépasser aujourd'hui ce traumatisme.
En tout cas, il faut des lois nouvelles, il faut plus d'argent pour que les choses changent.
Des moyens, déjà la majorité des associations féministes s'accordent sur le chiffre de 1 milliard qu'il faudrait mettre dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est 1 milliard, on les attend toujours. Enfin, on va pas faire que les attendre, on va les réclamer et à l'Assemblée, je manquerai pas de les réclamer. Il me semble pas que Thierry Solaire ait été très très visible et je l'ai pas beaucoup vu sur cette question. Donc je veux bien le remplacer pour porter ce sujet-là notamment.
Pauline Rapéy-Ferniaud, l'Inde et le Pakistan subissent une canicule sans précédent. Certaines régions de France, même si on en parle peu, connaissent un épisode de sécheresse précoce avec des niveaux de nappe phréatique historiquement bas. Pensez-vous qu'un gouvernement de gauche dirigé par Jean-Luc Mélenchon pourrait donner un signal fort aussi aux autres pays pour lutter véritablement contre le changement climatique?
Alors, il est évident que là, si c'est un gouvernement à majorité en marche et de droite, on se dirige tout droit vers un nouveau quinquennat d'inaction climatique. Donc, il y a urgence à mettre une autre majorité à l'Assemblée nationale. Et souvent, on nous rétorque que oui, mais la France toute seule ne fera rien. Évidemment, la France toute seule, ça suffira pas. Mais si déjà la France peut atteindre ses objectifs, par exemple, de développement des énergies renouvelables. On est les seuls en Europe à pas atteindre nos objectifs. Donc évidemment que si la France s'engage dans la bonne direction, montre la voie, ça fait un effet levier pour l'Europe. Si l'Europe s'engage aussi collectivement dans la bonne direction, ça peut changer pour le reste du monde. Et oui.
C'est un combat important pour votre génération. Je l'ai dit, vous avez 26 ans.
Mais je crois que pour ma génération, c'est une question de vie ou de mort. Comme beaucoup de personnes de mon âge, je fais de l'éco-anxiété. Et depuis toujours, je m'engage pour ça. En fait, si je fais de la politique aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai envie de faire de la politique. C'est parce que depuis toujours, je me dis, où est-ce que je peux être le plus efficace pour lutter contre le dérèglement climatique? Et changer les règles du jeu, ça me paraissait la meilleure manière. Et pour ça, faut faire de la politique et se présenter au vote.
Et c'est la raison pour laquelle vous pensez que des électeurs qui votent traditionnellement à droite ou pour... Emmanuel Macron, peuvent se retrouver dans votre candidature?
Alors dans un premier temps, je vais essayer de rassembler les électeurs et les électrices qui partagent notre vision de la société, pour qui se disent à Boulogne, en fait, c'est pas perdu d'avance. Il y a beaucoup de gens qui votent pas parce qu'ils pensent que de toute façon, Boulogne, c'est la droite ou la droite, pour leur dire que là, cette fois, il y a une chance d'avoir autre chose. Et puis ensuite, au second tour, montrer aux autres que entre moi et la personne qu'ils ont en face, peut-être qu'il faut faire le choix de l'avenir. Plutôt que de l'ancien monde qui se représente de mandat en mandat et dont on voit pas vraiment ce qu'ils font quand ils sont élus.
Pauline Rapéy-Ferniaud, un de vos premiers combats aussi, si vous êtes élue, ce sera d'empêcher la retraite à 65 ans voulue par Emmanuel Macron.
Oui, alors ça, il y a pas de gros suspense. Hein, ça fait partie des points d'accord de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Par ailleurs, les écologistes, ça fait très longtemps qu'on porte la réduction du temps de travail, l'importance de travailler moins, travailler mieux partager le travail. Et toutes ces choses-là, il y aura aucun problème pour le défendre collectivement.
Dernière question, Pauline Rapéy-Ferniaud. Que répondez-vous aux candidats macronistes qui considèrent que votre alliance à gauche est dangereuse pour l'économie, mais aussi pour la République, car vous ne seriez pas clair sur la laïcité?
Alors là, Honnêtement, qui est dangereux aujourd'hui pour notre avenir? Il me semble que c'est l'inaction climatique. Qui est dangereux pour les droits des femmes? Il me semble que c'est d'avoir Darmanin au ministère de l'Intérieur. Et les seuls qui dévoient la laïcité et qui sont pas clairs sur la laïcité, en réalité, c'est eux, à essayer de stigmatiser l'islam au quotidien. Par ailleurs, nous, les écologistes, de la même manière que tous les partis de l'Alliance de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, on est très clairs, c'est la loi de 1905, rien que la loi de 1905. Et aujourd'hui, moi, vous savez, je pense que quand j'étais avant, la question de la laïcité, pour moi, ça me paraissait pas un enjeu. Genre, je comprenais pas pourquoi tout le monde se tiraillait là-dessus. Et puis je suis allée à la marche contre l'islamophobie, et pour la première fois de ma vie, j'ai compris de manière sensible, enfin je sais pas comment dire, mais niveau des émotions, ce que ça voulait dire la laïcité. Il y avait des jeunes femmes voilées qui portaient un drapeau français. Moi, j'ai jamais manifesté avec un drapeau français. Elles portaient un drapeau français et elles disaient « Laïcité, on t'aime, il faut nous protéger ». Et en fait, la laïcité, c'est ce qui permet à toutes et toutes de vivre ou pas leur religion en France. Et en fait, c'est un joyau qu'on devrait protéger. Aujourd'hui, ceux qui la menacent, c'est Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur qui l'utilisent pour stigmatiser une catégorie de la population. Aujourd'hui, les écologistes, on n'a aucun sujet sur la laïcité, si ce n'est qu'il faut l'utiliser comme elle est vraiment, pour protéger toutes et tous.
Merci Pauline Rapilly-Ferniaud. Je rappelle que vous êtes candidate de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale à Boulogne-Billancourt, dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.